EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
En fait, trop souvent, on mesure l'impact au nombre de followers ou au nombre de vues. Or, c'est pas parce que ta vidéo elle a été vue 1 million de fois, par exemple, qu'elle a impacté. On va mesurer l'impact à combien de commentaires ça a généré, combien de fois elle a été partagée, est-ce que ça t'a rapporté des abonnés et des abonnés qualifiés.
Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver en ce beau lundi. Quelquefois lundi, c'est un peu dur, c'est un peu lourd comme journée, mais aïe, vous avez votre rendez-vous de la journée, vous êtes en train de reprendre le sourire, tout va bien, nous sommes ensemble encore aujourd'hui et c'est parti pour une très belle émission, je le crois, et je suis accompagnée d'Aurélie et de Stéphanie. Hello les filles.
Hello, hello Annabelle.
En forme.
Très en forme. Ça va bien, Aurélie?
Oui,
ça
oui.
Va bien. Stéphanie, elle est sur.
Ah ouais. Elle est Stéphanie.
Je ne sais pas si c'est l'énergie ou la caféine.
Les deux, les deux.
Et bien, en plus, nous sommes les filles dans la semaine d'Action de Grâce ici au Canada, qui n'est pas l'Action de Grâce aux États-Unis, Thanksgiving. Donc, nous, on a une date différente au Canada et c'est une belle semaine pour se rappeler, oui. Pour prendre le temps de se rappeler de ce que Dieu fait pour nous, de ce que Dieu a fait pour nous. Alors, on veut se réjouir tout de la semaine et puis aussi vous lancer ce défi, même si vous ne fêtez pas l'Action de Grâce dans votre pays, sachez qu'ici l'Action de Grâce existe, alors nous vous le communiquons parce que c'est une belle fête, je trouve.
Oui.
pour pouvoir se rappeler de ce que Dieu a fait.
Exact, c'est un beau moment juste pour écrire une petite pensée ou peut-être dans son cœur dire merci Seigneur pour nos enfants, notre mari, ce qu'il a fait pour nous. C'est une belle fête.
On pourrait écouter l'émission avec Freddy, Pasteur Freddy, sur construire un foyer de rêve.
Oui.
Où Stéphanie, tu nous racontes tes flops de l'Action de Grâce. Comme ça vous donnera des idées,
des choses qu'il faut pas faire.
Écoutez,
en tout cas, je suis reconnaissante pour vous les filles, puis reconnaissante aussi pour cette émission.
Par contre, Madame n'a jamais été un flop, par exemple.
Bravo, Stéphanie. Bravo, Stéphanie. Nous ne demandons qu'à voir et qu'à
écouter. Je parle, mais c'est vrai que vous devez venir à la maison.
Alors, nous sommes reconnaissantes pour tout ce que Dieu fait à travers les émissions. Comment on peut lire aussi vos commentaires et n'hésitez pas à envoyer vos témoignages pour nous témoigner de ce que À table avec Annabelle apporte aussi dans votre vie. emcitv.com/témoignages et ça va nous encourager aussi et puis on peut lire les témoignages de temps à autre, comme ça encourage aussi les autres. Et aujourd'hui, nous avons une invitée qui est déjà venue dans À table avec Annabelle et aujourd'hui, on la retrouve un peu sous un autre chapeau, une autre casquette. Bonjour Noémie, bienvenue dans À table avec Annabelle.
Bonjour à vous toutes, je suis super contente d'être ici aujourd'hui.
Eh ben nous aussi, écoute, là, il faut vraiment que tu fasses un petit effort quand même pour venir en vrai, parce qu'on ne va pas continuer à le faire à distance. On commence à développer une relation à distance. Donc, Noémie, je disais, la dernière fois, tu étais venue, on t'avait reçu, et puis tu avais parlé par rapport à la préparation pour le mariage. Et aujourd'hui, on va prendre une casquette plus professionnelle. Parce qu'on te voit très active sur les réseaux et tu partages beaucoup par rapport du contenu chrétien pour encourager, etc. Mais en fait, il y a un métier derrière tout ça. Et peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais tu es consultante en marketing et communication digitale. Et du coup, c'est quelque chose que tu fais pas que pour toi, mais tu le fais aussi pour d'autres entreprises, d'autres personnes, etc. Alors aujourd'hui, on voulait avoir ton expertise en tant que consultante pour savoir comment mieux impacter, comment mieux utiliser nos réseaux sociaux. On veut avoir une consultation gratuite, en gros. Non, merci. Donc, dis-nous déjà peut-être pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui t'a amené dans ce couloir?
Ouais, moi, j'ai commencé des études dans la cuisine parce que j'étais très manuelle, très créative. Et puis en 2020, il y a eu vraiment un tournant. Moi-même, j'ai voulu prendre une autre direction professionnelle. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas allier ma passion, qui sont les réseaux sociaux, la créativité. J'étais sur les réseaux depuis déjà 2016 pour un ministère à part entière. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire mon métier de tous les jours et que ça soit plus juste quelque chose d'à côté, mais que quotidiennement, je travaille avec ces outils. Et donc, j'ai repris mes études. J'ai fait une troisième année de licence. Et puis après, j'ai fait un master. Donc, j'ai fini avec en France, on disait un bac plus 5 en tant que consultant en marketing digital et en stratégie réseaux sociaux. Ouais.
Oui, stratégie, pas communication, en effet.
C'est pas grave.
Et 5 mots, j'ai réussi à me tromper. Donc, ok, merci. Et en fait, c'est ça, c'est que tu as commencé sur les réseaux sociaux, mais tu n'avais pas de formation. C'est comme tu étais naturellement douée pour les réseaux. Tu as compris comment ça fonctionnait.
Ouais, moi je fais partie de la génération Z, donc
j'ai compris.
Non, c'est que Facebook et j'utilisais Facebook que j'étais au collège, donc j'ai un peu grandi avec Facebook, Snapchat, puis après Instagram qui s'est assez développé, donc c'était assez naturel d'aller dans ce chemin-là, sachant que, comme je le disais, en 2020, avec le Covid, il y a eu un shift dans l'utilisation des réseaux. Mais avant, l'algorithme et le principe des réseaux n'étaient pas le même, donc c'était aussi plus facile d'avoir un peu moins d'expérience ou de stratégie prédéfinie et quand même arriver à impacter.
Ok, d'accord. Donc, les filles, est-ce que vous avez des questions?
Il y a quelque chose comme ça qui me vient à l'esprit quand Noémie parle. C'est, est-ce que tu as vu une différence, justement, parce que là, tu es passée un peu de quelqu'un qui le faisait par passion à quelqu'un qui a étudié dans le domaine. Est-ce que ça vaut le coup d'étudier? Parce qu'apparemment, tu savais déjà plus ou moins comment t'en servir. Quel est le plus qu'on a, justement, quand tombe dans le côté professionnel et non pas juste dans le côté je suis créative, c'est cool, je vais le faire, etc.
Toute la différence, elle réside dans l'objectif de ce pourquoi vous êtes sur les réseaux. Si l'objectif, c'est d'être une personne influente, un créateur de contenu, alors vous n'allez pas forcément avoir besoin de formation dans ce domaine. Vous allez être assez autodidacte, vous former dans la vidéo et dans les principes, les codes, développer petit à petit votre communauté et donc naturellement attirer du trafic. Mais si vous êtes là dans un but de promouvoir un projet, un business, de faire des réseaux sociaux un tremplin pour attirer, fidéliser et signer des clients. Là, c'est sûr qu'on va avoir besoin d'un côté stratégique et donc d'études un peu plus poussées. Il faut savoir que le marketing, donc là, on va parler de marketing, vraiment, c'est toutes les stratégies qu'on met en place, l'étude de la cible, l'étude des objectifs, etc., repose énormément sur du psychologique. Donc, si vous n'avez pas un minimum de base sur du marketing psychologique, sur de la psychologie chacun d'entre nous, on est plus ou moins sensible, on va déjà partir avec un frein. Donc, les études dans ce domaine-là ou faire appel à des experts, des personnes qualifiées, c'est assez essentiel.
Et moi, j'ai une question. C'est quoi ne pas faire sur les réseaux sociaux? C'est quoi la plus grosse erreur qu'on fait ou des pauses qu'on fait qu'on ne devrait pas faire? Dis-nous tout.
Les plus grosses erreurs sur les réseaux, c'est le manque de régularité ça pêche énormément parce que il faut comprendre que il y a une dark face un peu des réseaux sociaux qui sont liés à la dopamine. Donc ça veut dire que ils ont construit des algorithmes qui vous poussent à aller chercher ce sentiment, cette émotion de dopamine à l'intérieur de vous. Par exemple, TikTok a été très très fort, il a énormément développé ce système là, cet algorithme là où vous scrollez parce que votre cerveau ne sait pas ce qui va se passer après et ça vous envoie un shot de dopamine. Donc c'est très lié aux émotions et à la psychologie, encore une fois. tout est étudié pour ça. Et donc, le manque de régularité, instantanément, peu importe les plateformes, elles vont vous le faire payer. Quand on dit régularité, on peut en parler après, c'est pas forcément de poster en type de vidéo ou de post. On va plus être actif sur de la story pour continuer à avoir ce fil rouge et puis en même temps pas perdre la communauté. Mais on voit directement quelqu'un qui n'est pas régulier dans ses posts, dans sa proposition de contenu, la plateforme la pénalise directement. Quelque chose aussi de...
Qu'est-ce que tu veux dire? Excuse-moi Naomi, qu'est-ce que tu veux dire la plateforme la pénalise automatiquement? Qu'est-ce que c'est?
Par exemple, vous publiez un réel, je vais parler d'Instagram, quand vous publiez un réel, Instagram va la projeter, donc ils sont constamment en train de faire des mises à jour sur les algorithmes, mais Instagram va la montrer à un petit pourcentage de vos abonnés. Et puis ensuite, si vos abonnés ne regardent pas cette vidéo, il ne va pas la propulser à un plus grand nombre de votre communauté et la tirer vers les extérieurs avec des personnes qui ne vous suivent pas. Donc là, on est vraiment dans la théorie pure. C'est Adam Messouri ou Messouri, je ne sais plus, jamais. Bref, il est dirigeant d'Instagram et il vous explique souvent comment ils programment leur algorithme. Et donc, forcément, si vous n'êtes pas dans cette constance, ce lien constant avec la communauté, forcément, votre réel, il va être moins mis en avant, même à ce petit groupe de personnes. Okay. Ce petit groupe de personnes va être désintéressé de ce que vous avez fait. Okay. Donc, du coup, vos vues vont chuter.
Ok. Okay,
tu as été déçue, Annabelle, d'entendre que...
Là, je me dis, je suis fichue.
J'aurais une autre question.
Attends, elle avait d'autres erreurs.
Excuse-moi. Déjà, elle est majeure, celle-là, pour moi, par exemple. Vas-y, continue.
Il y a le manque d'authenticité aussi, c'est-à-dire qu'on veut tous copier chez son voisin. On voit que Monsieur X, ça marche chez Monsieur X et on a envie de refaire exactement la même chose. Sauf qu'on est tellement bombardé d'informations, on vit dans un monde qui cherche constamment notre attention dans le but de prendre votre temps pour après que vous achetiez. En fait, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est jamais gratuit, quelque chose n'est jamais gratuit. Quand on n'est pas authentique, quand on n'est pas soi-même, quand on met un masque, quand on dit les choses sans vraiment dire les choses, quand on n'arrive pas à véhiculer quelque chose de nous, de notre personnalité, déjà, on se met des bâtons dans les roues parce que forcément, il va y avoir une perte de connexion avec notre audience et avec les gens qui pourraient potentiellement nous suivre parce qu'il n'y a pas de plus-value à ce que vous proposez que Monsieur X. Ça, c'est une erreur que je vois trop souvent, où il y a des comptes qui proposent les mêmes conseils, la même forme de réel, tout pareil. Et puis, en fait, il n'y a pas de différenciation entre eux et d'autres.
Ok. Est-ce que ça, on était dans les deux erreurs majeures ou tu en avais d'autres encore? J'imagine qu'il y en a plein, mais dans les majeures.
Une chose qui va être aussi importante, c'est la qualité du contenu qu'on produit. Tant dans la qualité, par exemple, donc de vidéos, de téléphones, la qualité des carousels que vous allez faire, etc. Qualité de la vignette sur YouTube. D'ailleurs, j'ai vu EMC prend ce tournant un peu en travaillant encore plus avec le contraste des vignettes, ce qui est tendance. Tant dans cette qualité opérationnelle et la qualité aussi de contenu, dans le sens, si vous dites des choses qu'on peut trouver sur Google, il n'y a aucune plus-value à ce que vous dites. Ce n'est pas un contenu qualitatif. Et donc, pour le coup, ça va être plus difficile en termes d'objectifs derrière.
Vas-y, Stéphane.
Je dis, c'est un peu intéressant, au moins que le contenu soit considéré, parce que des fois, tu vois des choses qui ont l'air de faire des vues pas possibles, et le contenu, des fois, peut laisser à désirer. Et moi, je pense que ça, je ne suis pas du tout une spécialiste, mais le contenu devrait quand même être assez important aussi. Mais qu'est-ce qui fait... Pourquoi certaines vidéos... En tout cas, qu'est-ce qui fait un bon post? On a regardé les erreurs, mais tu sais, il y a des trucs que tu vois, certains vont poster, puis boum, ça explose littéralement. Là, j'ai bien retenu l'authenticité. L'authenticité, sans jouer non plus sur se dévoiler la vie privée. Ouais. Certains vont avoir des gros... Si tu postes, par exemple, moi, si je mets une photo avec mon mari, par exemple, pouf, ça explose. Ouais, mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux partager du contenu. C'est pas à propos de moi, c'est à propos du message, tu vois. Donc, des fois, ça me met...
Mais peut-être qu'il y a des types de contenu.
Oui.
Est-ce qu'il y a des types de contenu qui font en sorte que le tout mis ensemble, ça explose?
Des fois, il y a un peu de voyeurisme. Je trouve que les gens, ils veulent juste voir.
Oui, oui. quand on, alors pareil, on va toujours faire la différence entre un compte type un peu plus influenceur, créateur de contenu, et un compte business. Ça veut dire que tous les conseils qu'on donne, ils sont adaptés en fonction de la finalité du compte et de ce que finalement on veut en retirer. Mais c'est vrai que il y a des choses et ça tourne même des fois à des dérives où quand vous allez être en couple, que vous allez être marié, que vous allez avoir une famille, des enfants, naturellement votre contenu il va être plus poussé, programmé par la plateforme, parce que c'est ce qui intéresse. Il y a ce côté un peu voyeurisme, comme tu disais Stéphanie, qui est assez malsain. Ensuite, il y a ce côté aussi très tendance. Ça veut dire que comme TikTok est un énorme concurrent, par exemple, par rapport à Instagram, et que TikTok a une stratégie très agressive, Instagram va aussi, selon le temps, selon les algorithmes, il s'est en permanence en train de changer, il rectifie en permanence les choses, mais proposer, pousser des contenus très courts, parfois, qui sont pas super profonds, qui vont faire beaucoup de vues, mais peut-être pas beaucoup d'engagement derrière. Et en fait, trop souvent, on mesure l'impact au nombre de followers ou au nombre de vues. Or, c'est pas parce que ta vidéo elle a été vue 1 million de fois, par exemple, que elle a impacté. On va mesurer l'impact à combien de commentaires ça a généré, combien de fois elle a été partagée, est-ce que ça t'a rapporté des abonnés et des abonnés qualifiés, parce que quand, par exemple dans un business, si on parle, on fait une vidéo qui a fait énormément de vues, mais qu'on est totalement à côté du sujet de son business, le problème c'est que on va avoir des abonnés mais qui sont pas qualifiés, qui vont pas pouvoir devenir des clients derrière. Donc, toute cette réflexion, encore une fois, elle va dépendre de est-ce que je vais être un créateur de contenu, un influenceur, ou est-ce que je vais utiliser les réseaux sociaux pour mon projet, mon business. Et donc là, la stratégie, elle va être assez différente.
Et comment, quels conseils tu peux donner pour pouvoir augmenter la visibilité et l'impact sur les différentes plateformes?
Ouais. Et bah, ce qu'on disait, à la fois c'est des erreurs et en même temps c'est des conseils du coup positifs, c'est maximiser l'authenticité, la création de contenu, le fait de poster assez régulièrement. Donc, du coup,
quand tu dis assez régulièrement, c'est quoi? On parle de plusieurs fois par jour, on parle d'une fois dans la semaine, c'est parce que régulièrement, je pense qu'on n'a pas tous la même échelle.
Ouais. Alors, encore une fois, ça va dépendre de quels sont mes objectifs derrière. Il faut vraiment comprendre que la plupart d'entre nous, on poste, mais on poste sans objectif derrière. Et du coup, si par exemple, la vidéo n'a pas fait beaucoup de vues, on va avoir l'impression qu'elle a flop. Quel était ton objectif derrière ce poste? Si derrière, tu as signé des contrats, tu as généré de l'engagement, peut-être que c'est un meilleur objectif que juste faire des vues. Donc, encore une fois, ça va dépendre. En termes de recommandations pour justement continuer à être un peu dans l'algorithme, sur TikTok, on va pouvoir poster 3-4 vidéos à la suite. Ils ont un algorithme qui est différent d'Instagram. Sur Instagram, on va être sur de la story. Donc, moi, je recommande 5 jours sur 7 du postage en story. Il faut comprendre que au sein même d'Instagram, par exemple, chaque publication a un algorithme bien précis et a des buts bien précis. Quand je vais publier un réel, mon but, ça va être d'aller chercher de nouveaux abonnés, qu'on me découvre, parce qu'il y a cette tendance sur la plateforme à ce qu'on mette les réels en avant. Donc ça, je peux en publier un par semaine, minimum. Vous pouvez aller jusqu'à 2. Il ne faut pas non plus que la création de contenu, ça soit un piège. J'aime dire à mes clients que les réseaux sociaux, quand par exemple on est dans un business, c'est qu'un tremplin pour après attirer et créer un lien avec le client. Ça ne doit jamais devenir un piège dans lequel on s'enferme. Donc un réel, deux réels. Après, on va être sur un carrousel. Le carrousel, il est là pour démontrer que vous avez l'expertise de votre métier. Quelqu'un qui tombe sur un réel et qui vient sur votre compte, quand on est sur un compte de business, il va avoir besoin d'être rassuré. Donc, dans les carousels, vous allez parler des problématiques clients. En marketing, on commence toujours par une problématique et on finit par la solution qui étant son produit ou son service. Donc, on va venir attirer, encore une fois, tout est une question que d'émotion. On vient titiller le mauvais pour finir sur une note positive. Donc là, pour le coup, on peut être à un carrousel par semaine, surtout que pour le coup, Instagram favorise de plus en plus les carrousels. Et en story, on est sur 5 jours sur 7. On va alterner entre de la story d'engagement, ça veut dire qu'on montre les backstage de son entreprise, les défis. Il faut vraiment que la communauté, elle vous sente authentique, donc il faut que vous partagiez les sentiments et les émotions que vous ressentez, peut-être les défis, les victoires, les choses qui ont bien moins bien marché. Et ensuite, on va être sur de la vente. C'est la story qui fait vendre principalement, parce qu'on peut mettre des liens et que du coup, il y aura cette alternance entre créer du lien et puis vendre. Et donc, c'est ça qui fonctionne. Et quand on est sur un compte un peu plus créateur de contenu, on peut adopter une stratégie dite agressive. Et donc là, pour le coup, si on a envie de maximiser, développer sa communauté, se faire connaître le plus possible et à obtenir, à acquérir un grand nombre d'abonnés en peu de temps, là, on va pouvoir publier principalement des réels pour aller chercher ce nombre de vues, des réels avec un contenu intéressant, un contenu de valeur, comme on disait, pas de l'information qu'on peut trouver sur Google et que tout le monde pourrait dire. Donc là, les témoignages rentrent vraiment en compte, puisque personne ne peut être vous, personne ne peut avoir votre même histoire, votre même personnalité. Donc là, on peut être à 3, 4 réels par jour. Ça permet d'acquérir un grand nombre d'abonnés. Il y en a
par
qui
jour,
font ça.
Par jour.
Par jour.
Ouais,
il y en a qui font ça. Il faut avoir du temps.
C'est un métier, là.
Pour ça.
Là, je parle des influenceurs. Les influenceurs, pour tout le temps être en constamment accroître leur nombre d'abonnés, quand c'est leur job, en général, ils ont une stratégie plutôt agressive.
Okay. Oui, c'est leur travail après.
Oui, c'est ça, c'est un temps plein.
Ouais, ouais.
Et du coup, ça veut dire qu'on a un réel pour. Dans une semaine, un réel, un carrousel, 5 stories minimum pour que un compte fonctionne. Ouais. Là, tu viens de nous expliquer que nos comptes ne
fonctionneront jamais. Ne fonctionneront jamais.
Non, c'est beaucoup. Non. Je fais des efforts quand même. Toi, non, t'es la meilleure, toi. Franchement, t'es meilleure que nous.
Bon, meilleure par rapport à vous, mais par rapport à l'ensemble.
Je ne veux pas vous expliquer.
Très bonne.
Après, les recommandations que là, je donne, que j'expose, c'est des recommandations un peu universelles pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on nous explique les choses. Après, encore une fois, il y a des anomalies des fois où il y a des personnes en fait, qui vont pas souvent poster et puis leur contenu, il va marcher. Parce que, par exemple, de l'extérieur, vous avez déjà une d'autres activités. Par exemple, si on prend le cas de À Table, vous êtes présente sur YouTube, vous avez d'autres plateformes qui permettent de développer aussi le ministère, l'image de marque, etc. Et donc, du coup, naturellement, va y avoir cet attrait. On va s'intéresser, même si vous postez pas de temps en temps, parce que vous avez développé tout ce qui était autour.
Bon, d'ailleurs, on en profite. Abonnez-vous sur le compte À Table, sur À Table avec Annabelle. Abonnez-vous, même si on ne poste pas régulièrement, même si on ne fait pas de story tous les jours. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein. Donc, aidez-nous. Et je voulais savoir aussi, Noémie, une question par rapport aux abonnés, à l'achat des abonnés, parce que c'est... Bah, déjà, je ne sais pas trop ce que c'est, ni comment ça fonctionne.
C'est où qu'on les achète.
Est-ce que je peux vous acheter les filles?
Il y a peut-être ce préjugé, pas ce préjugé, mais cette idée préconçue que plus tu as d'abonnés, plus ça attire d'abonnés. Et du coup, j'ai entendu que des gens avaient des faux abonnés ou des faux commentaires ou des faux, je ne sais pas trop
des
quoi.
Des faux commentaires.
Et c'est comme des gens, je ne sais pas, moi, ils sont payés pour faire ça. Je ne sais pas trop. Et comme ça, ça fait comme il y a de l'engouement sur ton compte, tes publications. Mais en fait, c'est genre toi qui as acheté.
C'est pathétique, là.
Oh. Alors, qu'est-ce que tu peux nous expliquer
Oui. Alors, l'achat d'abonnés, c'est des bots. En fait, ce sont des faux comptes qui vont s'abonner en masse à vous. Vous allez les acheter, les payer. En général, c'est des comptes qui viennent d'Inde, de Chine, qui ne sont pas européens. Donc, il n'y a aucune plus-value à ça. En plus de ça, vous avez une chance sur deux que Instagram vous banne parce que il ne va pas comprendre pourquoi vous avez 250 personnes, 300, 400 qui s'abonnent en 5 minutes à vous, alors que vous n'avez pas, enfin, il ne peut pas faire le lien avec le fait que vous avez publié un réel et c'est ça qui vous ramène les abonnés. Cette stratégie, elle a beaucoup été utilisée avant le Covid et un petit peu après, mais maintenant elle s'éteint. Premièrement, parce que on calcule plus l'impact d'un compte plus trop à son nombre d'abonnés, mais à son taux d'engagement. Okay. Son taux d'engagement, chaque marque qui va vouloir travailler avec un influenceur va calculer son taux d'engagement. Donc, ça comprend le nombre de commentaires, le nombre de fois où ses posts, où son profil est partagé, la réactivité dans les messages. C'est tout ça qui crée un taux d'engagement. Plus le taux d'engagement, il est bien, plus votre compte a de l'impact. Et donc, vous pouvez, quand vous êtes un créateur de contenu ou un influenceur, demander des rémunérations plus importantes si vous faites des partenariats, par exemple. Mais l'achat d'abonnés, c'est un tu stratégie. Il ne faut jamais faire ça. Et en plus, on est souvent focalisé sur le nombre d'abonnés. Bon, en réalité, c'est parce que ça nous fait plaisir à nous, que ça nous donne de la valeur et de l'importance. On se dit, plus on est suivi, plus on est important. Mais quand on est une entreprise, par exemple, on s'en fiche complètement de ton nombre d'abonnés. C'est pas ton nombre d'abonnés qui va définir le nombre de clients que tu vas signer, mais c'est toute la capacité que tu as à mettre en place cette stratégie et à créer un lien avec ta communauté au travers du storytelling, au travers de l'authenticité, au travers des problématiques qu'elle peut rencontrer et comment tu peux apporter cette solution qui va fonctionner. Mm-hmm.
Donc, ce que vous avez
dit, en fait, ça veut dire que, parce que je reviens un peu sur quelque chose qu'on a dit avant par rapport au fait qu'il y a des vidéos qui ont l'air de ne pas avoir un contenu solide, mais qui font du buzz. Et là, on parle du nombre d'abonnés. Ce que moi, je vois ces temps-ci, c'est que le nombre d'abonnés parle quand même quelque part. Tu vois, si quelqu'un a 1 million d'abonnés, la personne va sembler plus crédible qu'une personne qui en a peut-être 10 000, par exemple. Et jusqu'où, en fait, on peut se dire ça ne compte pas. Est-ce que pour le fait d'être un créateur de contenu tout court, là, on se dit OK, ça compte vraiment. Et pour le fait d'être une entreprise qui a un business, là, on se dit c'est vraiment pas important. À quel niveau est-ce qu'on peut se situer là? Parce que plusieurs personnes me pèsent juste parce qu'elles ont 200 000 abonnés, 300 000, tu vois?
Alors, quand on est d'un point de vue marque, business, quelqu'un qui s'arrête à ça, au nombre d'abonnés, c'est qu'en général, il fait mal son travail. Dans le sens, s'il s'arrête à ça, il va se payer des fortunes, par exemple, pour un influenceur qui a 200, 300 000, 400 000 euros, 400 000 followers, pardon, alors que peut-être l'influenceur, il n'a pas du tout d'engagement. Je pense que c'est plus d'un avis extérieur quand on n'est pas trop du métier ou du milieu qu'on se dit, ah, celui-là, il a 1 million d'abonnés, ah ouais, il pèse. Parce qu'en fait, s'il a 1 million d'abonnés, mais qu'il a 70 000 j'aime sur ses publications, qu'il a à peine 100 commentaires, alors déjà, attention, hein, c'est déjà beaucoup. Ça peut remplir un stade de France ou de. C'est déjà énorme. Mais par rapport à son nombre d'abonnés, c'est ridicule. Et donc, du coup, si par exemple, moi, je suis une entreprise ou une marque, je ne vais pas me laisser impressionner par un nombre d'abonnés, mais je vais vraiment regarder son taux d'engagement. Et c'est ça qui va définir si cette personne, elle a de l'impact, elle pèse ou non. J'ai conscience que encore trop de personnes se font parfois avoir sur le nombre d'abonnés. Mais si derrière, on n'a pas d'engagement, c'est une coquille vide. Ça n'a pas d'impact.
Et quand tu dis les commentaires, c'est ça qui pèse. Est-ce qu'on peut dire, parce que certains vont, moi, premièrement, quand je regarde, je mets rarement des commentaires, mais ça ne veut pas dire que ça ne m'intéresse pas, mais je ne mets pas de commentaires. Est-ce que c'est bien de dire, si vous aimez, mettez un commentaire, un machin comme ça?
La plateforme, alors Instagram, encore une fois, ils sont en constante évolution. Sur TikTok, je reprends. C'est trop bateau de dire si vous aimez, mettez un commentaire. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui le font que vous n'allez pas avoir de résultat derrière. Il faut avoir donné l'impression à la personne qui regarde la vidéo que c'est son choix si elle a commenté et surtout qu'elle va avoir quelque chose derrière.
Ça, je trouve ça bien, parce que des fois, tu as mettez un pouce, mettez un machin, mettez un bidule.
Ça marche de moins en moins, ça.
Okay.
Donc, pour TikTok, pas de problème au niveau des commentaires. Pour YouTube aussi, très, très bien, très positif. Sur Instagram, ils sont un petit peu dérangés par le fait qu'on fasse directement un appel à l'action pour les commentaires. Donc, par exemple, moi, j'ai constaté sous mes vidéos que quand je disais... dis-moi en commentaire ce que t'en penses ou des choses comme ça. Mes vidéos, elles étaient directement moins vues que si je laissais rien. Ils aiment pas trop, ils sont un peu relous dans leur dans leur mise à jour, etc. Donc, il y a plein de stratagèmes. Quand on est une entreprise, par exemple, on travaille avec un logiciel qui s'appelle ManyChat. C'est quelque chose où il y a une version gratuite et une version payante. Et en fait, c'est un bot qui va répondre pour vous aux commentaires, qui va inciter la communauté à mettre des commentaires. Et quand on est une entreprise, encore une fois, ce qu'on va faire, c'est que pour générer de l'engagement justement sur son compte et donc être promu par la plateforme, on va offrir quelque chose de gratuit. C'est un principe en marketing qui s'appelle le pied dans la porte. Ouais. C'est-à-dire que vous laissez quelque chose, en l'occurrence, vous laissez un commentaire, vous laissez une adresse email et vous obtenez quelque chose de gratuit, quelque chose d'utile, un contenu de valeur derrière. Et après, on va avoir toute une stratégie du coup où vous avez laissé un commentaire, vous avez obtenu quelque chose de gratuit, le bot a répondu pour vous, on a votre adresse mail et après, on va faire des campagnes d'emailing.
Oh, ouf. Et pour les... en fonction du réseau...
Attends, le bot, c'est un robot, quoi.
Ouais, c'est un algorithme. Je crois que même... je sais pas s'ils utilisent l'intelligence artificielle ou pas. Même.
D'accord.
Je pense que oui. Je réponds aux questions comme Noémie. Mais je voulais savoir par rapport au fait qu'il y ait plusieurs plateformes. Par exemple, on a YouTube, on a Instagram, ouais, etc. Est-ce que copier un lien de l'un vers l'autre, est-ce que ça nous avantage ou ça nous handicape? Si je prends par exemple mon lien de ma vidéo YouTube que je vais mettre sur Instagram, est-ce que Instagram voit YouTube comme un concurrent et du coup m'handicape pour mes vidéos? Ou pas du tout, ça n'a aucun impact?
Moi, j'ai entendu quelques personnes qui disaient que quand elles mettaient des liens dans leur story était moins vue. Mais honnêtement, je ne l'ai pas remarqué sur moi ni sur mes clients. Mm-hmm. Donc pour moi, je dirais que non, ça n'a pas d'impact.
D'accord.
Voilà. Ce qui est sympa, par contre, vu que tu parles de plusieurs plateformes, c'est de connaître les plateformes et leur utilisation, ainsi que la cible. Quand on a un projet quelconque, hein, qu'il soit business ou qu'il soit en tant que créateur de contenu, c'est hyper important de se poser et de développer son projet, mais surtout d'aller chercher sa cible, d'étudier sa cible. Et donc, en étudiant sa cible, elle va être plus, elle va aimer plus ou moins certaines plateformes. Au TikTok, on est sur une cible très, très, très jeune. Vraiment, les marques, elles ont du mal à décoller quand elles ne sont pas animées d'une personne. Très important aussi, y a vraiment un tournant où les marques, elles ont beaucoup, beaucoup de mal à exister maintenant sur les réseaux, les marques en tant que telles, parce qu'elles ne sont pas incarnées. Parce qu'en fait, elles ont du mal à aller chercher leur communauté sur le côté authenticité, storytelling. Et donc, c'est seulement quand des marques, elles sont incarnées ou quand elles ont des très bons CM. Je pense à Burger King, à Decathlon aussi, ils ont des CM qui jouent énormément.
CM, ça veut dire quoi,
Community
CM?
Manager.
Ok.
Community Manager. Où ils jouent sur l'humour, etc., où elles peuvent prospérer. Mais donc, sur TikTok, on va être sur une cible beaucoup plus jeune. Sur Instagram, on va être sur 18 ans, 40 ans. Après, on va passer à Facebook. Et puis, sur YouTube, c'est un peu plus... on va être... Les jeunes, ils sont, mais ouais, on va être sur du 15 ans, 15 ans et puis plus. Et donc, en termes juste d'importance, c'est que d'une plateforme à une autre, vous pouvez réutiliser le contenu.
Mais différemment, en fonction de la cible.
Par exemple, j'ai mis une vidéo sur Instagram, je peux la remettre sur YouTube Short, ce qui va me générer des vues. Alors bien sûr, il ne faut pas faire que ça, parce que sinon, ça serait un copier-coller de votre Instagram. Mais pour générer du trafic, vous pouvez jouer entre les différentes plateformes et les différents algorithmes de cette manière, ce qui économise du temps et de l'énergie. Par exemple, à mes clients, ils n'ont pas 40 vidéos à faire, mais ils en font une ou deux qui vont publier sur leurs différentes plateformes.
Mais en parlant de vidéos à faire, est-ce que toi, tu conseilles de faire appel à des professionnels pour pouvoir te filmer, prendre des photos, etc.? Ou alors, on est dans l'ère de l'authenticité, puis j'y vais avec mon téléphone, avec mes petites photos, mes petites vidéos. Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce qu'il y a un mieux ou est-ce que ça dépend?
Ça dépend de l'image de marque qu'on veut faire ressortir. Ça veut dire que, par exemple, si vous êtes une marque de bijoux, si vous filmez que avec votre téléphone, que vous n'avez pas de graphisme, d'univers de marque derrière, de belles photos de mise en avant de vos produits, c'est sûr que ça va être un peu plus difficile d'aller vous construire une communauté qui a confiance en vous. C'est mm-hmm. toujours un peu les premiers clients hein, qu'il faut aller chercher. Puis après, vous avez des avis, donc ça va. Quand on est une grande chaîne de télé, on va pouvoir, par exemple, jouer entre des réels très authentiques filmés à l'iPhone avec de la voix off, on va pouvoir jouer sur de l'humour, etc. Et en même temps, pour lisser et garder cette image de marque et de confiance de professionnel, on va quand même investir dans du matériel. Quand on est un petit entrepreneur, on n'a pas besoin, mis à part des photos de qualité pour son site internet et puis sa communication, on n'a pas besoin d'investir des 1000 et des 100 dans l'opérationnel, dans la vidéo. Par contre, ce qui va être hyper important, c'est de réfléchir et d'investir dans la stratégie. Stratégie, j'entends par là l'univers de marque avec du graphisme, création vraiment de tout ce qui est couleur, police, quel message je veux faire ressentir et donner à ma cible. Et puis après, le côté stratégique marketing, où là, c'est important de le développer en amont parce que ça évite beaucoup d'erreurs d'avance.
Et au niveau des collabs, parce que je croule sous les demandes de collaboration, mais c'est pas vrai du tout. Mais au niveau des collabs, est-ce que ça donne du crédit? Est-ce que c'est quelque chose de bon pour un compte? Parce que tu vois, moi, il y avait une fille que je suivais et j'aimais bien son contenu. Puis en fait, à un moment donné, moi, j'ai l'impression qu'elle faisait que des collabs et qu'elle partageait que du contenu commercial et c'était des pubs en fait qu'elle faisait. Et, moi, je me suis désabonnée. Mais pourtant, elle a beaucoup d'abonnés. Donc, comment t'expliques ça?
Encore une fois, beaucoup d'abonnés ne veut pas dire que justement sa communauté elle est engagée ou elle aime ce qu'elle fait. C'est vrai qu'il y a eu une ère, les choses changent très vite. Dans le digital, ça veut dire que ce que je peux vous dire aujourd'hui, dans un mois, ça peut être obsolète. Ça change très, 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 très vite. Un mois, j'exagère un peu, mais voilà, ça change vraiment vite. Donc, il y a eu une ère, un temps où les influenceurs étaient très prisés par les marques. Donc, eux, ils pouvaient mettre des 1000 et des 100. Il y a eu toute une polémique. En France, on a eu des lois hein, même qui ont cadré ça parce que ça partait dans tous les sens et beaucoup de gens se sont fait arnaquer. Des influenceurs perdaient justement leur authenticité à devenir juste un compte publicitaire et plus à créer ce lien avec leur communauté, ce partage authentique. Donc, je pense que c'est comme dans tout. Il faut un équilibre. Après, il y a des partis pris. Il y a des personnes qui décident de jamais faire de collaboration parce qu'elles estiment que leur compte n'est pas un panneau publicitaire. Il y en a d'autres, ça fait plus de sens avec qui elles sont et le contenu qu'elles produisent. Par exemple, je pense aux créatrices de contenu qui sont des mamans et qui font la marque, la promotion d'une marque éthique sur soit les couches, soit les produits pour les enfants ou pour des vêtements. Ça va dépendre aussi vraiment de l'axe que l'influenceur ou le créateur de contenu a choisi et est-ce que ça colle avec qui il est, sa personnalité et ce qu'il veut faire ressentir à sa communauté.
Bon, ça me donne... je parle pas des collabs, mais en général, ça me donne de l'espoir et du désespoir en même temps. Mais tu as dit que les choses pouvaient changer très vite. Donc peut-être qu'à un moment donné, le fait de ne pas poster, le fait d'être irrégulier, ce sera en notre faveur à toi et à moi.
Un jour peut-être.
Ok, et est-ce que tu avais une question?
Mais moi, je me disais, tu sais, des fois, on parle des réseaux, ça a du... Pour ça, bien sûr, tu sais, c'est un entrepreneur, une créatrice de contenu, mais il y a des pièges aussi. Est-ce que tu peux nous dire quelques pièges? J'ai beaucoup aimé parce que déjà, les gens, ils se sentent, j'ai tant de followers, donc je suis important, mais comme tu dis, si tu n'as pas d'impact, j'ai beaucoup aimé le fait des commentaires et le fait d'être... Alors, quels sont les pièges qui sont pour faire attention pour les gens? C'est vrai, parce que beaucoup de gens veulent être sur les réseaux sociaux, ils postent de leurs assiettes ce qu'ils mangent, à ce qui est leur jardin, assis à ça, mais il y a des pièges quand même.
Oui. Quand on est créatrice de... Excusez-moi, à chaque fois, c'est différent parce que ce n'est pas les mêmes stratégies. Mm-hmm. Quand on est une influenceuse ou une créatrice de contenu, là, forcément, ce que veulent les gens, c'est créer un lien au travers de ta vie, de ce que toi, tu montres. Donc là, peut-être qu'on va pouvoir rentrer dans de l'un peu plus personnel. Et encore, là, quand on se positionne en tant que chrétien, moi, je trouve qu'il y a vraiment des limites à avoir. J'ai vu des influenceurs et les gens, beaucoup de personnes, justement... se perdent parce qu'ils font plus la distinction entre qu'est-ce qu'est le virtuel et qu'est-ce qu'est la réalité. Donc vraiment, c'est de se dire aussi dans les pièges, c'est de se dire que les réseaux sociaux ne sont en aucun cas, ne prouvent en aucun cas ma valeur. Si ça fonctionne aujourd'hui, ça peut ne pas fonctionner demain. Si ça fonctionne pas demain, ça fonctionne. Enfin, si ça ne fonctionne pas aujourd'hui, ça peut ne fonctionner demain. De se dire que voilà, il n'y a pas de découragement à avoir. De marquer des temps de pause aussi. Moi, je suis entrepreneur. C'est un pari risqué, mais j'ai dit, dès le début, j'ai dit le samedi et le dimanche. Moi, je ne suis pas connectée sur mon réseau professionnel. Je déconnecte. C'est pour servir le Seigneur. C'est pour avoir du temps avec ma famille. Je refuse que ça m'absorbe et que j'ai plus de cadre ni de limite à ce job-là. Et puis après, quand vous êtes justement un entrepreneur, quand vous êtes un entrepreneur et que c'est votre business, le danger, c'est que vous vous perdiez entre un contenu qui est trop gratuit, pas axé sur la vente, donc que vous soyez trop dans la communication et pas assez le marketing, ou alors que vous soyez trop dans le je partage ma vie, mes enfants, mon intimité, alors qu'en fait les gens ils sont pas là pour ça, ils sont là pour que vous soyez une personne de confiance sur le professionnel que vous êtes et pas sur la vie personnelle que vous pouvez apporter.
C'est pour ça que toi tu as plusieurs comptes en fait, parce que tu sépares selon l'objectif de tes comptes, c'est ça?
Ouais. Okay. Oui, parce que mon compte d'influence, c'est un compte qui est là vraiment pour aider les personnes dans leur foi, dans leur recherche de foi, dans vraiment, ça n'a rien à voir avec le business. Et je ne voulais pas mélanger les deux choses, parce que je suis une chrétienne, mais je suis une entrepreneure aussi. Et au travers de mon compte Just Noémie, je ne vais pas chercher juste des chrétiens, même si je travaille beaucoup avec des chrétiens, je vais aussi chercher des non-chrétiens. Et au travers des valeurs de mon entreprise, de ma manière de travailler, etc., je veux avoir un impact dans leur vie. Et je n'avais pas envie de tout mélanger. Je refuse de tout mélanger. Et c'est pour ça aussi que j'ai changé d'univers de marque. Sur Just Noémie, vous allez retrouver du vert. Après, ça, c'est aussi en termes marketing psychologique des couleurs. Chaque couleur va influencer quelque chose à l'intérieur de vous. Donc, c'est très important de travailler sur ça en amont. On ne va pas avoir le même ressenti quand on a du violet, quand on a du vert, que quand on a du bleu. Le bleu, d'ailleurs, c'est pour ça que Facebook, Twitter, etc., était initialement en bleu. Ça véhicule quelque chose de très apaisant. Tout est une question psychologique. Et que dans mon univers autre, Savoir Chrétien Sœur Con, on va être sur des tons un peu plus bleutés, beige. Ça va être quelque chose de très différent. Le but, c'était vraiment de séparer les deux choses.
Merci beaucoup pour tous ces conseils et pour ta générosité dans ton expertise. Donc, on peut te contacter aussi directement pour pouvoir avoir accès à tes services si on veut aller plus loin et puis avoir aussi un coaching et puis peut-être une consultation détaillée et plus personnalisée. Merci en tout cas, c'était très, très instructif, très intéressant. Oui. J'ai appris plein de choses. Bon, je pense que je percerai jamais sur les réseaux.
Petite story après l'émission.
Mais merci, franchement, c'était très, très intéressant. Et donc, on peut te retrouver sur tes comptes Sœurco, Savoir Chrétien, et sur ton compte pro, qui est Just, je sais pas comment on dit, Noémie. Ouais. Et là, on peut te retrouver... Noémie, ok. Moi, j'ai mal... Excuse-moi, décidément. Je veux te saboter. Donc, on peut se retrouver.
L'authenticité, ça a du poids. Vas-y, compte.
Bon, on va s'en tenir. Mais un grand merci à toi. Puis écoute, on t'attend au Canada. Oui. Faut que tu viennes. Oui. Écoute, oui. Faut que tu viennes. En vrai, on va pas continuer à faire des vidéos comme ça à l'infini. Mais merci beaucoup.
Merci pour tout.
Bye bye.
Merci.
Bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.